Personnage extraordinaire de l'œuvre de Giono par Jean-Louis Caribou, c'est tout de suite, c'est le cinquième portrait ou...
Oui, cinquième portrait. Oui.
Bonjour Jean-Louis.
Et bonjour Odile.
Alors aujourd'hui vous parlez de Bobby.
Bobby qui est l'un des personnages principaux du roman de Jean Giono, Que ma joie demeure.
Alors on vous écoute.
Alors Que ma joie demeure, c'est un roman de Jean Giono bien sûr, on vient de le dire. Et c'est un roman qui a enchanté mon adolescence. D'ailleurs, j'en ai adapté la lecture pour écrire une pièce de théâtre. Ça ne s'est jamais fait, ça n'a jamais été adapté ni au théâtre ni au cinéma. Mais je l'ai fait pour l'association Handicap Évasion 04 et nous l'avons joué 5 fois dans la région. Donc, moi, je demeure. J'espère avoir une prochaine occasion de la représenter à Digne ou ailleurs. C'était prévu pendant le confinement, mais annulé en raison du Covid, bien sûr. Donc voilà, Que ma joie demeure. Alors, c'est un roman que Giono situe en Haute-Provence, sur un plateau. Il y a des plateaux en Haute-Provence, mais celui-là, il lui donne un nom qui n'existe pas sur les cartes. C'est le plateau Grémone. Et sur ce plateau vivent 5 familles éloignées les unes des autres. Entre autres, il y a Jourdan et sa femme. Et sur ce plateau, ces familles de paysans, il y a aussi un château, ces familles de paysans et de châtelains s'ennuient un petit peu. Les paysans répètent chaque année les mêmes actions, les mêmes travaux. Ils labourent, puis ils hercent, puis ils sèment du blé, ils passent le rouleau, le blé lève, c'est la moisson, ils font du pain. L'année précédente, c'était la même chose. L'année suivante, ce sera la même chose. Le père faisait la même chose. Le grand-père faisait la même chose. Et cette routine, cette répétition de travaux domestiques, pose quelques problèmes d'ordre existentiel et métaphysique au paysan Jourdan, même si ce n'est pas en ces termes qu'il se pose son interrogation. Malgré tout, il est touché par l'ennui de la répétitivité, la monotonie, et en plus la platitude du plateau facilite cet ennui. Et il se dit, mais quand même, il doit y avoir d'autres raisons supérieures d'exister, d'être sur Terre quand même. Et un jour, il avait été à la foire de la ville toute proche, et là, il avait entendu parler du petit-fils d'une vieille femme, Marion, et on lui avait raconté que ce jeune homme était parti loin, au-delà des îles. Pourquoi faire ? Pourquoi faire au-delà des îles ? Mais pour soigner des lépreux. Ah bon ? Et ça, alors, il existe des soigneurs de lépreux. Et alors, il rentre chez lui, Jourdan, et cette révélation lui donne des idées. Ah, mais quand même, ça existe sur Terre des hommes pour lesquels la préoccupation première n'est pas de s'alimenter. Ce n'est pas uniquement domestique, c'est quand même aller soigner les autres. Aller soigner les autres, et petit à petit, cette mission de soigner les autres, elle prend une valeur symbolique différente. Il soigne des lépreux, ça alors, il soigne des lépreux, et petit à petit, il va comprendre que la lèpre, comme on va le lui révéler un peu plus tard, ce n'est pas une maladie, mais c'est de l'amour sans emploi. Et il se dit, mais quand même, si il existe des hommes comme ça, j'aimerais bien en rencontrer un, et peut-être que sur mon plateau, pendant mon travail, je vais en rencontrer un. Il rentre chez lui, et il se dit, oui, je vais en rencontrer un, ça c'est sûr, un soigneur de lépreux. Et on va lire quelques pages, justement, sur ce sauveur de lépreux qui fait irruption pendant que Jourdan laboure dans son champ. Alors je vais lire quelques-unes des premières pages du roman « Que moi je demeure ». C'était une nuit extraordinaire. Il y avait eu du vent, il avait cessé, et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffe, avec des racines d'or épanouies, enfoncé dans les ténèbres et qui soulevait des mottes luisantes de nuit. Jourdan ne pouvait pas dormir. Il se tournait, il se retournait. Il fait un clair de lune de toute beauté, se disait-il. Il n'a jamais vu ça. Le ciel tremblait comme un ciel de métal. On ne savait pas de quoi puisque tout était immobile, même le plus petit pompon d'osier. Ce n'était pas le vent. C'était tout simplement le ciel qui descendait jusqu'à toucher la terre, racler les plaines, frapper les montagnes et faire sonner les corridors des forêts. Après, il remontait au front des hauteurs. Jourdan essaya de réveiller sa femme. « Tu dors ?»«
Oui. »
Mais tu réponds, non. Tu as vu la nuit? Non. Il fait un clair superbe. Elle resta sans répondre et fit aller un gros soupir, un claquet des lèvres et puis un mouvement d'épaule comme une qui se défait d'un fardeau. Tu sais à quoi je pense? Non. J'ai envie d'aller labourer entre les amandiers. Oui. La pièce, là, devant le portail. Oui. En direction de Fra Joséphine. Oh oui, dit-elle. Elle bougea encore deux ou trois fois ses épaules et finalement elle se coucha en plein sur le ventre, le visage dans l'oreiller. « Mais je veux dire, maintenant, » dit Jourdan. Il se leva, le parquet était froid, le pantalon de velours glacé. Il y avait des éclats de nuit partout dans la chambre. Dehors, on voyait, presque comme en plein jour, le plateau et la forêt grémone. Les étoiles s'éparpillaient partout. Jourdan descendit à l'étable. Le cheval dormait debout. « Ah, dit-il, toi tu sais au moins, voilà que tu n'as pas osé te coucher. » Il ouvrit le grand ventail. Il donnait directement sur le large du champ. Quand on avait vu la lumière de la nuit comme ça, sans vitre, entre elle et les yeux, on connaissait tout d'un coup la pureté. On s'apercevait que la lumière du fanal, avec son pétrole, était sale et qu'elle vivait avec du sang charbonné. Mais on était comme dessous des braises, malgré ce début d'hiver et le froid. Le ciel sentait la cendre, c'est l'odeur des écorces d'amandier et de la forêt sèche. Jourdan pensa qu'il est temps de se servir du Brabant neuf. La charrue avait encore les muscles tout bleus de la dernière foire. Elle sentait le magasin de marchands, mais elle avait l'air volonteuse. C'était l'occasion ou jamais. Le cheval s'était réveillé. Il était venu jusque près de la porte pour regarder. Il y a sur la terre de beaux moments bien tranquilles. « Si vraiment je l'attends parce qu'il doit venir, se dit Jourdan, il arrivera par une nuit comme celle-là. » Il avait enfoncé le tranchant du coutre au commencement du champ, en tournant le dos à la ferme de Fra Joséphine et en direction de la forêt grémone. Il aimait mieux labourer dans ce sens parce qu'il recevait en plein nez l'odeur des arbres. C'est le cheval qui, de lui-même, s'était placé de ce côté. Il y avait tant de lumière qu'on voyait le monde dans sa vraie vérité, non plus décharné de jour, mais engraissé d'ombre et d'une couleur bien plus fine. L'œil s'en réjouissait. L'apparence des choses n'avait plus de cruauté, mais tout racontait une histoire, tout parlait doucement au sens. La forêt, là-bas, était couchée dans le tiède des combes comme une grosse pintade aux plumes luisantes. « Et, se dit Jourdan, j'aimerais bien qu'il me trouve en train de labourer. » Depuis longtemps, il attendait la venue d'un homme. Il ne savait pas qui, il ne savait pas d'où il viendrait, il ne savait pas s'il viendrait. Il le désirait seulement. C'est comme ça que, parfois, les choses se font. Et l'espérance humaine est un tel miracle qu'il ne faut pas s'étonner si parfois elle s'allume dans une tête sans savoir ni pourquoi ni comment. Le tout, c'est qu'après elle, elle continue à soulever la vie avec ses grandes ailes de velours. « Moi, je crois qu'il viendra, » se dit Jourdan. Maintenant, les étoiles étaient dans toute leur violence. Il y en avait de si bien écrasées qu'elles égouttaient de longues gouttes d'or. On voyait les immenses distances du ciel. Il pouvait être à ce moment-là 3 heures du matin. Il finit son sillon, c'était le quatrième. Il tourna encore une fois le dos à la forêt. Il commença à descendre le cinquième en direction de la ferme Fra Joséphine. Il n'y avait rien de changé. Le cheval marchait pareil. Jourdan marchait pareil. L'herbe craquait pareil. Ni les bruits, ni l'odeur, ni la nuit dorée. Pourtant, il y avait quelque chose. Jourdan la sentait dans son dos. Il n'osait pas regarder. Plus il se forçait pour résister à l'envie de tourner la tête, plus il sentait qu'il fallait tourner la tête. Non, il poussa le cheval. Déjà, il y avait quelque chose de changé. Le froussement plus rapide de la terre fendue par le coutre et le fer du cheval qui tinta contre la chaîne de ridelle. Au bout du sillon, il se dit « Maintenant, regarde !» Le champ montait jusque vers la forêt, mais là-haut, il était arrêté net contre la nuit. Juste sur la ligne, on voyait le corps d'un homme. C'était un homme parce qu'il était planté, les jambes écartées, et entre ses jambes, on voyait la nuit et une étoile. « Monte, cheval !» dit Jourdan. Puis, à lui-même, « Et il me trouvera en train de labourer !» L'homme l'attendait. « Salut !» dit-il. « Salut !» dit Jourdan. « Le temps presse ?»«
Le temps ne presse pas, » dit Jourdan. « Tout vient. » « Et à son heure, » dit l'homme.
« C'est mon avis, » dit Jourdan. Puis, il abandonna les mancherons de la charrue et il laissa retomber ses bras le long de lui.
« Tu as du tabac ?»
Jourdan se fouilla et donna sa blague. « Je n'ai pas fumé depuis Roum, » dit l'homme, « mais dans la forêt, valait mieux pas. Les chênes sont secs. »«
Il n'a pas plu depuis Toussaint, » dit Jourdan.
« Le puits sent bon, » dit l'homme.
« C'est la première fois que tu y viens ?»«
C'est la première fois qu'il est devant moi. Une saison, j'ai fait la vallée de Louvèze. » Il traça dans la nuit une ligne avec son doigt du côté de l'est. « Et une autre saison, le maquis dans les collines bleues. » Il montra le nord. « J'étais à côté. Aujourd'hui, j'entre. » Il se détourna à contrevent pour allumer sa pipe et Jourdan ne put pas voir son visage. Il connut seulement les épaules de l'homme. Une bonne grosseur et qui faisait bien barrière au vent. « Je t'ai vu labourer, » dit-il. « Je me suis dit, mais laboure. Alors je suis venu voir. »«
Oui, » dit Jourdan, « ce n'est pas le besoin. La nuit donnait envie. »«
C'est quel tabac ?» dit l'homme, en goûtant la pipe.
« Du gris. »«
Mais tu l'as mis dans du gris rouge. »«
Juste, » dit Jourdan.
« Je sais les goûts, » dit l'homme, « et j'aime bien. Ça fait fontaine. »« Pardon ?» demanda Jourdan.
Le tabac fort, dit l'homme, est déjà épais de lui-même. Si tu le mets dans le grès rouge, il sue.
Ça fait une sorte d'amitié, si tu veux, entre le tabac et la pierre, et ça donne à la fumée ce goût de bonne vase claire.
Tu n'as jamais ramassé une poignée de boue dans une fontaine de source ?
Non.
Fais-le, et tu verras, ça a le goût de cette fumée, sang.
Et il lui souffla une bouffée de fumée dans le nez.
« Tu sens ?»«
Guerre. »«
Goûte. »
Il lui tendit la pipe. Jourdan suça le tuyau de la pipe. Elle était encore humide de l'homme.
« Tu sens ?»«
Oui. »«
Maintenant. »
Il tendit la pipe.
« Dans le grès bleu, » dit l'homme, « le tabac prend le goût du fer. C'est comme ça. »«
Je l'appelle du tabac de forgeron. Ce n'est pas précisément le goût du fer. » C'est le goût de l'écaille de fer. Tu sais, quand on mouille le blanc et puis qu'on le frappe, les écailles tombent. Voilà, ça sent ça. Et encore, pas précisément les écailles qui tombent, mais les écailles qui restent collées à la corne de l'enclume. Voilà ce que ça sent juste.
Oh, tu as un gros goût, dit Jourdan.
Oui, dit l'homme, et c'est ça l'affaire.
Le cheval tremble, dit-il, au bout d'un petit moment. Il ne faut pas le laisser au repos.
« Où vas-tu, toi ?» dit Jourdan.
« Oh, je vais rester un peu avec toi, le temps de fumer cette pipe de bon tabac. Marche, je te suis. »
Et voilà que de nouveau Jourdan fait tourner le cheval coquet et en droite ligne de la ferme Fra Joséphine, le sixième sillon commence. L'homme marche à côté de la charrue. Il ne parle plus maintenant. Il siffle. Il siffle une chanson qui s'accorde avec tout. Le sillon neuf, la nuit de feu, le large du plateau. Il la siffle tout doucement, entre lèvres. Ça a l'air d'être pour lui-même et pour Jourdan comme un secret. Et tout de suite, Jourdan a reconnu le son de cette flûte qu'il chantait jusqu'à présent dans sa tête. Voilà que la chanson a pris l'air et que déjà elle est vivante sur le plateau et que le cheval peut l'entendre.
« Alors, dit l'homme, ici, ça s'appelle comment ?»«
Plateau Grémone.
Vous êtes nombreux ?»«
Une vingtaine. »«
Village ?»«
Non. »
De ferme,
là c'est la mienne, là-bas Fra Joséphine, les autres, la Fauconnière avec ses buis chez Maurice, mouille Jacques, l'autre est au bord du même petit lac près d'un érable.
Beaucoup de champs ?
De larges champs, la terre est bon marché.
Oui, je vois, vous êtes loin les uns des autres.
Commence le septième sillon.
Tu es seul ? Demanda l'homme.
J'ai ma femme.
Quel âge ?
Oh, en rapport.
Pas d'enfant ?
Non. L'homme siffle encore un petit moment, mais ça monte.
Tu aimes ton cheval ?
Beaucoup.
Il est vieux ?
Assez.
Et tu le gardes ?
Oui.
Qu'est-ce que tu dis de cette nuit ? J'ai jamais vu la même.
Moi non plus, dit l'homme. Orion ressemble à une fleur de carotte.
Pardon ? Demanda Jourdan. Orion est deux fois plus grand que d'habitude.
C'est ça, là-haut. Arrête-toi. Là-haut. Là.
Tu vois ?
Non.
J'ai jamais su rien désigner, dit l'homme. C'est curieux, ça. On m'en a toujours fait le reproche. On m'a dit, on ne voit jamais ce que vous voulez dire.
Qui t'a dit ça ?
Oh, quelqu'un. Un couillon, dit Jourdan. Mais, dit l'homme, toi non plus, tu n'as pas vu Orion.
Non, dit Jourdan, mais j'ai bien vu la fleur de carotte.
Oh, c'est le cœur pur, dit l'homme, et la bonne volonté.
À ce moment-là, le septième sillon était fini, il fallait commencer le huitième. C'était malgré tout difficile à dire.
Tu n'as jamais soigné les lépreux ? Demanda Jourdan.
Jamais, dit l'homme.
Mais il eut l'air de trouver ça tout naturel. Et ça, c'était bon signe. Puis il se mit à siffler.
Vraiment, il y a des proverbes qui ont été faits pour les hommes de la terre, les hommes qui ont vu sans forêt, sans lac, sans montagne et sans foi le ciel renversé. Il faut quand même croire qu'ils y connaissaient quelque chose. Un de ces proverbes dit que d'une chose mauvaise, une belle ne peut pas sortir. Le sifflet était beau comme tout.
Il était fait de juste rond, il allait calme, il allait juste où il fallait. On sentait qu'il était né d'une tête solide. Il faisait voir le regard de deux yeux placides, des gestes lents, un homme posé sur le large du plateau Grémone, avec la nature et la lenteur d'un arbre. Ce n'était peut-être pas un soigneur de lépreux, mais il y a des hommes prédestinés. Il suffisait peut-être de lui faire voir le mal pour que se réveille en lui l'appétit de soigner.
Et maintenant, il fallait commencer le neuvième sillon, et la terre montait, et le cheval était fatigué de ce travail de nuit.
Et puis, c'est curieux comment on se débrouille mal dans les choses surnaturelles, ou qu'on croit.
Il y avait déjà ce goût de tabac, ce grès rouge, cette fontaine de source, ce grès bleu et ces écailles de fer.
Maintenant, toutes les étoiles étaient vraiment comme des fleurs de carotte.
Il avait dit « Orion », c'est un mot que peu de gens connaissent.
Si j'achetais un cheval jeune, je l'appellerais Orion. Mais il fallait commencer le neuvième sillon. C'était trop important.
Tu viens rester ici ?
Non, je passe.
Et tu vas où ?
Devant moi.
Ce n'est pas de curiosité, s'excusa Jourdan.
Je sais, dit l'homme.
C'est de nécessité, dit Jourdan. Mais il comprit tout de suite qu'il allait se tromper.
Il avait eu envie de lâcher les mâcherons de la charrue, d'arrêter le cheval et puis d'expliquer.
Il ne faut jamais expliquer.
Ils sont bien plus contents, les autres, quand ils trouvent tout seul. Au contraire, il poussa dans les brancards.
Il fit le gros dos, il donna sa force, le timon frappa aux jambes du cheval.
Le cheval fit trois gros pas, Jourdan aussi, et voilà qu'ils étaient, charrue et tout, en avance, sur l'homme, comme pour lui dire « si tu pars, bon vent ».
Mais nous, on reste, on n'a besoin de personne, qui ne risque rien n'a rien.
« Tu pourras toujours rester un jour, » dit Jourdan, en tournant la tête.
« Pourquoi pas ?»«
Au fond, » dit Jourdan, « je suis seul et la terre est grande. Tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait m'aider ?»«
Non. »
Pour que le sillon soit bien fait, il aurait encore fallu demander « quel est ton métier ?»
Mais il y avait trop de féerie.
On ne voyait presque plus la graine des étoiles. Elles avaient poussé leurs ramures. Le ciel en était tout verdi.
Le jour allait se lever, il faisait froid, le vent s'étira, la ferme Fra Joséphine grogna d'une porte. De chaque côté du champ, le plateau commença à s'élargir.
La lumière verte se mit à courir sur lui, jusque là-bas, au fond, entre les montagnes encore noires. De temps en temps, là-haut, dans le ciel, passait comme le bruit d'une grosse corde de guitare, puis ça s'éteignait et chaque fois, la lumière montait d'un cran.
« Que je le vois !» se dit Jourdan.
Il était arrivé en haut du champ. Il arrêta la charrue, mais il regarda les sabots du cheval. Tous les quatre. Enfin, il se dit « Voyons !» et il se redressa. C'était un homme aux cheveux pleurants, le front large de trois doigts, la peau dorée, tout rasé, et sa peau avait le reflet de la nacre. Des lèvres simples et sans chinoiserie, même un peu minces, des yeux si clairs, qu'on aurait dit des trous. il pouvait avoir environ 35 ans. Pour le reste du corps, durable et de l'épaule et le bras bon, des mains légères, presque mains de fille. C'était un oui c'est oui et non c'est non, inchangeable. L'aspect d'ensemble était plutôt royal. Une supposition, dit Jourdan, que tu restes ici un jour ou deux. Ton patron ne te dira rien ? L'homme sourit, il avait des dents de loup. Et tu t'appelles ? Pour la commodité, disons Bobby. Tu bois du café ? Tous les matins. Viens le boire à la maison, le jour se lève. Alors, l'étranger fit tout seul le 10e sillon, et le 11e, et le 12e, et jusqu'au 20, et tout le champ, et il passa la herse, et il se bat, et peut-être même qu'il récolta tout de suite, allez savoir. Donc voilà la rencontre de Jourdan avec cet étranger qu'il attendait sans trop le savoir, mais quand même il espérait sa venue, la venue d'un soigneur de lépreux. Et Bobby, puisque cet étranger s'appelle Bobby, il vient de le dire, va rester sur le plateau Raymond quelque temps. Et dès le lendemain, Jourdan éprouve l'envie d'aller montrer sa trouvaille aux autres habitants du plateau. Ils attellent le bogey, le cheval, avec sa carriole, et ils font le tour des fermes. Et Jourdan est tout fier d'aller présenter aux autres paysans Bobby, et il dit « c'est mon cousin ». Et il est tout fier de montrer son cousin. Ce cousin qui est extraordinaire, parce qu'il a révélé quelque chose. Il a montré une étoile dans le ciel qu'il connaissait, Jourdan. Les paysans connaissent un petit peu le ciel et ses étoiles. Il a montré la constellation d'Orion, qui est une constellation magnifique que l'on voit plein sud au début de l'hiver. Et puis Bobby lui a dit « elle ressemble à une fleur de carotte ». Orion, fleur de carotte. Et tout d'un coup, Jourdan, sur le moment, il n'a pas compris ce que voulait dire Bobby. Mais pendant le reste du roman, par la suite, cette expression va revenir très souvent dans la bouche de Bobby, Orion, fleur de carotte, et Jourdan va comprendre quel est le message dans cette expression, dans cette image. Il connaît certes la constellation d'Orion, il connaît les fleurs de carotte qui sont des ombellifères qui poussent le long des champs, en bordure des chemins. Mais que Bobby ait dit dans la même image, dans la même expression, Orion, fleur de carotte, qu'il ait mis une fleur dans une étoile, et puis en y réfléchissant, en écoutant mieux, qu'il ait mis de la musique, parce que Orion, fleur de carotte, l'opposition des sons, des phonèmes, en or et en ar, Orion, fleur de carotte, mettre de la musique dans une étoile, mettre une fleur dans une étoile avec de la musique, mais ça, c'est extraordinaire, il n'y avait jamais pensé. Et tout d'un coup, le regard que Jourdan portait sur le monde, d'une manière tout à fait habituelle, un petit peu domestique et un petit peu inintéressé, mais tout d'un coup, son regard va être complètement différent, et c'est ce qu'on appelle de la poésie. Il va découvrir ce que l'on peut voir dans le monde quand on y met de la poésie, et c'est Orion, fleur de carotte, qui en est le symbole. C'est d'ailleurs tout le talent de Giono, qui était un virtuose de l'image poétique. Donc ce sauveur, ce poète, cet errant qui arrive sur le plateau Raymond, Bobby, donc dès le lendemain, il va faire le tour des fermes, il va aller présenter son cousin aux autres paysans, et à chacune des fermes, il va se produire un véritable miracle. Et ça va être l'objet de notre prochaine séance.
Jean-Louis Caribou, merci beaucoup, et on se retrouve mercredi 6 septembre à 9h30 sur cette même antenne 99.3 pour ce sixième personnage extraordinaire de l'œuvre de Giono. Bonne journée et merci, au revoir.